Interview.
2 et c'est l'heure de l'interview avec au studio Jeanne Favra. Bonjour.
Bonjour.
Jeanne, vous êtes ici avec nous pour nous parler de la 6e édition Les yeux dans l'eau qui auront lieu du 13 au 23 mars sur plusieurs endroits, mais a priori sur Eure principalement, et avec ensuite des points sur Creil, Loriol et Valence. Il y a donc, c'est un festival international du film de rivière. Donc on peut peut-être rappeler aux auditeurs cette motivation de proposer ce festival dédié aux rivières donc.
Oui, bien sûr. Donc, en fait, l'association Drôme Environnement Territoire Culture s'est constituée en 2018, a été créée en 2018, avec l'idée de faire un festival qui puisse réunir les deux passions de l'équipe fondatrice, à savoir le cinéma, puisque c'était une équipe de personnes très cinéphiles, mais aussi la rivière. Donc, c'est un festival qui est né vraiment au bord de la Drôme. Du constat que cette rivière, spécifiquement la Drôme, mais aussi toutes les autres, méritaient d'être célébrées et que ces dernières étaient très présentes dans le cinéma de façon très variée. Et du coup, l'idée, ça a été de mêler les deux, la rivière et le cinéma, pour faire ce festival Les yeux dans l'eau. Et donc, on en est à notre 6e édition qui commencera incessamment sous peu.
L'équipe qui constitue ce festival est issue aussi du film documentaire ou du cinéma ? Ou alors c'est juste surtout une passion ?
Oui, c'est vraiment des bénévoles passionnés, en fait, comme je le disais à l'instant, qui sont cinéphiles, qui ont une passion pour le cinéma et qui ont voulu s'appuyer sur leur passion pour développer un festival qui a bien fonctionné en fait, dès la première édition.
Alors, pour cette édition 2025, il y a un titre, Quand ça déborde. Alors, c'est en référence au climat, ces bouleversements que l'on voit actuellement.
Oui, exactement. En fait, là, notre idée sur cette 6e édition, c'était de faire un focus sur la thématique des crues et des inondations. Ces phénomènes, on est toutes et tous observateurs et observatrices du fait que ces crues et ces inondations sont très récurrentes en ce moment. que ce soit en France, en Espagne. Enfin voilà, on en entend beaucoup parler. Et du coup, notre envie, c'était de questionner ces phénomènes à travers voilà, un regard cinématographique, de voir comment le cinéma s'emparait de ces thématiques, de pouvoir comprendre leur cause et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les territoires, sur les personnes qui les vivent, mais aussi de façon plus large aussi de se questionner sur, sur ce que ça crée sur le long terme, en termes de relations, de résilience, de solidarité. Et donc, voilà, ce fil conducteur de cette sixième édition s'est fait de façon assez naturelle entre l'actualité qui résonnait avec des films qu'on voyait qui parlaient de cela. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a eu envie de leur consacrer cette édition.
Pour cette édition, donc, il y a en outre de ces projections qui vont être proposées, on en déterminera quelques-unes, il y a 25 intervenants aussi qui sont invités, donc tous très par rapport au cinéma et également à l'eau.
Oui, complètement. Bah, c'est vrai que c'est, je ne l'ai pas mentionné, mais dès le début, en fait, le festival Les Yeux dans l'eau a eu pour vocation de créer des espaces d'échange et de dialogue. C'est bien sûr faire honneur au cinéma et aux rivières en proposant des projections, mais aussi vraiment de pouvoir donner l'opportunité au public et voilà, aux personnes qui viennent d'échanger, de dialoguer, de débattre avec d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que là, on a une liste d'intervenants et d'intervenantes voilà, très riche, des personnes qui vont venir voilà, se questionner, répondre à des questions, etc., par rapport au film qu'on aura projeté. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, le festival, en fait, il a pour vocation de proposer une approche sensible, à célébrer ses rivières, à permettre aux uns et aux autres de rappeler, de comprendre qu'on est toutes et tous concernés par les rivières et que on a tous et toutes notre mot à dire pour s'en occuper, les préserver, etc. Mais c'est aussi vraiment la volonté de créer ces espaces de dialogue qui nous semblent en fait essentiels en ce qui concerne ces rivières qui ont besoin aussi vraiment d'être choyées, on va dire.
Alors, combien de films sont proposés pour cette édition ?
Alors, j'ai pas le nom précis, mais je crois que c'est à peu près 35. Cette année, on a quelques nouveautés, notamment une soirée court-métrage, donc ce qui a fait augmenter aussi le nombre de films proposés. En tout cas, on a vraiment une variété de films. On est à la fois sur du documentaire, de la fiction, du court-métrage, du long-métrage, avec l'idée en fait de proposer au public vraiment une diversité de supports pour que toutes les personnes voilà, susceptibles de venir puissent y trouver leur compte. Et donc, voilà, on a plein de formats très variés et puis avec des films pour certains qui sont inédits, voilà, qui n'ont pas été diffusés. Et donc, on est très, très fiers de ça.
Est-ce que les propositions cinématographiques demeurent ou se révèlent parfois difficiles pour accéder à certains?
Ce qui est sûr et évident, c'est que organiser un festival de films, c'est compliqué pour différentes raisons. Nous, notre rôle en tant que festival, c'est aussi de faire honneur au travail des réalisateurs et réalisatrices en payant aussi des droits de diffusion, en veillant à ce que le travail soit respecté. Après, c'est sûr qu'on est un petit festival avec pas beaucoup de moyens, et donc on essaye de faire au mieux pour aussi veiller à ce que ces enveloppes de droits puissent permettre de financer correctement les droits de diffusion. Après, on a la chance aussi de développer des partenariats avec des réalisateurs, réalisatrices ou des sociétés de distribution qui parfois nous offrent aussi ces droits de diffusion. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est pas toujours évident. Il y a des films qu'on aimerait diffuser, mais qu'on peut pas diffuser parce qu'ils sont bien au-delà des moyens qu'on a. Il y a des films qui sont parfois aussi introuvables en termes de diffusion, donc on ne peut pas les diffuser non plus. Mais en tout cas, voilà, on essaye de faire au mieux pour équilibrer tout ça. Ouais.
Alors, le festival dure une dizaine de jours environ, a commencé le 13 mars, ça sera à Cray. Avec le cinéma Eden. Et donc, il y aura plusieurs propositions de diffusion. Et il y aura également un atelier Carcavel. On pourra peut-être définir un peu ce rendez-vous.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai. Donc, on commence la journée avec le public, surtout à l'atelier Carcavel, donc qui est une galerie d'art qui se trouve dans Cré, dans le centre-ville de Cré. Et on est très très heureuse d'avoir pour la seconde édition l'atelier Carcavel à nos côtés, qui va proposer en fait une exposition collective qui s'appelle L'imaginaire de l'eau et qui réunira les travaux de trois artistes, donc Jean Larive, qui est un photographe voilà, qui a une certaine notoriété, qui notamment a été exposé à la BNF et qui a fait un formidable travail autour de la rivière Drôme post-pandémie. On aura aussi les œuvres de Marie-Noëlle Gontier, voilà, des peintures qui aussi interrogent la relation à cet élément de l'eau. Et puis enfin, des gravures de Philippe Tardy, aussi très fines et vraiment voilà, magnifiques. Ça, je ne suis pas très objective, mais c'est vraiment des travaux qui sont vraiment très très beaux et qui nous ont beaucoup inspirés. Et donc, jeudi donc, prochain, le 13, on aura le vernissage de cette exposition à partir de 15h. Et puis, le soir, on aura effectivement un ciné-concert avec le quintet Os et le film de Jean Renoir, La fille de l'eau. Là, ça va être une soirée aussi pleine de surprises avec voilà, cette performance en fait, de ce quintet qui va nous offrir une bande originale pour ce film de Jean Renoir qui est également... voilà, assez éblouissant. Et donc, on est très heureuse aussi parce que c'est vrai que les ciné-concerts, c'est quelque chose qu'on avait envie aussi de développer, de proposer au public. Et là, du coup, on est très ravis d'avoir pu le proposer pour cette 6e édition.
Alors, ce jeudi, ça sera une journée dédiée surtout aux collégiens et lycéens, hein, pour les projections, celle de... Packraft, vivre avec la rivière, et Afrine, au temps des crues.
Oui, alors malheureusement, en fait, ces projections ont dû être annulées parce que, voilà, par manque de financement, notamment de la suppression du pass culture, ça n'a pas favorisé ces projections. Mais en revanche, on aura des projections scolaires à destination des primaires le jeudi 20 et le vendredi 21. Et là, on va accueillir 400 élèves de primaire. Mais c'est vrai que malheureusement, les collégiens et lycéens seront, voilà, ne profiteront pas du festival cette année.
Il y a aussi des points d'écoute, hein, je crois, pour cette journée avec plusieurs... émissions qui seront proposées à l'écoute et qui émanent de diverses radios, dont la nôtre.
Oui, alors en fait, on avait envie de valoriser aussi, donc on reste un festival de cinéma, c'est certain. Pour autant, on est très intéressé par différentes formes aussi d'expression. Et donc, il était question, on a eu envie en fait de valoriser le travaux de radio ou de réalisatrices qui se sont interrogées sur ces phénomènes donc, de crue et d'inondation. Et donc, on a identifié... Quatre pièces, donc trois documentaires sonores et puis un reportage auquel vous avez contribué effectivement avec Radio Saint-Ferréol et la Biovallée, enfin et l'association Biovallée. Et donc ces pièces audio vont être en fait diffusées à la fois sur des radios partenaires, mais aussi pendant le festival sur le site du campus pour que voilà pour montrer aussi les façons dont on peut traiter de ces thématiques.
Le 15 mars, samedi, donc, il y aura aussi au cinéma Espace, à L'Oriole, une projection de Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Un film d'animation de Vince Zimbalodis, de Lettonie, donc.
Oui, c'est ça. Alors, Flo, c'est vraiment un film coup de cœur de moi, notamment, mais aussi de beaucoup, beaucoup de personnes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film en fait indépendant qui a été produit grâce à la coopération de beaucoup de studios d'animation européens. Et c'est le premier film d'animation indépendant qui a gagné le Golden Globe, l'Oscar du meilleur film d'animation et le César. Donc c'est un film vraiment, comment dire, peut-être risqué puisque c'est 1h20 de film sans parole, avec simplement de la musique et le récit. Enfin, en tout cas, on suit un chat dans un monde un peu post-apocalyptique qui fait face, en fait, à la montée des eaux. C'est un film visuellement magnifique, avec une histoire aussi très forte. Et donc, on avait envie, en fait, la projection de ce film répondait à la fois à notre envie, comme chaque année, on fait une projection à L'Auriol, de proposer quelque chose pour des familles. De valoriser une œuvre vraiment qui nous semble très très belle. Et donc c'est effectivement samedi à L'Auriol.
Voilà, en partenariat avec la Maison de l'Europe, Drôme Ardèche.
Oui, tout à fait.
C'est pour marquer un peu cet aspect européen également. Et ce film sera suivi d'une activité ludique avec, à propos du film, et puis il y aura un goûter, donc un rendez-vous familial en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Et donc effectivement, vous avez mentionné le partenariat donc, avec la Maison de l'Europe Drôme Ardèche. Effectivement, c'est un film qui a été lauréat du prix Lux, qui est le prix en fait, de la Commission européenne, qui chaque année octroie un prix à un film parmi 5 sélectionnés. Donc là, Flo a été sélectionné. On ne sait pas encore si c'est lui qui aura le prix. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de faire quelque chose ensemble et puis de proposer une médiation à l'issue de la séance. Et donc, avec la Maison de l'Europe, on proposera aux familles présentes des petites activités ludiques pour réfléchir au film, à la façon dont les spectateurs et spectatrices l'ont compris et ce qu'ils en retiennent.
Mercredi 19 mars, ça sera à l'atelier 8 et ça sera à l'écosite de Heure à partir de 19h. Alors, ça sera de la lecture à plusieurs voix, c'est-à-dire peut-être une participation du public dans cet atelier.
Alors, en fait, l'atelier 8 fait chaque 8 du mois, normalement, une lecture de texte. C'est un rendez-vous vraiment récurrent de cet atelier. Et donc là, en fait, non, c'est un petit collectif de personnes qui ont leurs habitudes de lire à plusieurs, à voix haute pour un public. Et donc, on a échangé ensemble sur l'opportunité de faire une lecture à plusieurs voix avec des textes sélectionnés par leurs soins. C'est une opportunité qu'on a eue grâce à un partenariat avec Isabelle Michaleff, qui est la personne qui occupe cet atelier 8 et qui initie toute une programmation, notamment autour de livres, de poésie, etc. Et donc, voilà, on est aussi très contente parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose à l'atelier 8. Donc, on espère que ça va être sympa.
Le jeudi 20 mars, le lendemain, donc, ça sera une journée sur le campus de Heure avec plusieurs propositions. Et ça commencera à partir de 10h pour les scolaires de 5 à 7 ans. Il y aura plusieurs propositions, des documentaires, des animations, des films d'animation. Quelle est cette notion aussi de pédagogique avec les enfants sur ce problème de l'eau ?
L'équipe, en fait, elle a toujours été convaincue que c'était essentiel, en fait, de faire des propositions aussi pour les plus jeunes. Ça paraît évident pour chacun. Je pense que il est nécessaire de sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes, rappelons-le, à la question de la rareté, en tout cas de la dimension très précieuse de l'eau, à la nécessité de la respecter, de la préserver, etc. Rien de nouveau sous le soleil a priori. Après, nous, on reste aussi convaincus que c'est important de développer le lien des enfants, des plus jeunes, avec l'écosystème des rivières, les écosystèmes de la rivière. Leur faire découvrir en fait toute la biodiversité qui est présente, comment fonctionne la rivière, quelles sont toutes les espèces qui en dépendent, etc. Et en fait, c'est un peu ce qu'on vise, c'est de connecter les spectateurs et spectatrices à ces cours d'eau pour qu'ils en prennent le plus grand soin et qui se rendent compte susciter l'émerveillement en fait par rapport à ces écosystèmes qui sont si si riches et si précieux en fait. Et donc on commence dès le plus jeune âge, puisqu'en plus on a la chance d'avoir des œuvres d'animation, notamment de films d'animation, mais pas que, qui sont particulièrement adaptés pour les plus jeunes. Et donc l'équipe avait eu envie de développer ça dès le début et c'est ce qu'on poursuit actuellement.
Il y aura un petit entretien ensuite à chaque projection, puisque les films sont relativement courts. Ça nécessite des échanges ensuite avec les élèves.
Oui, c'est ça. Alors en fait, la projection se passera... donc il y a deux projections, une le matin pour les élèves de la grande section au CE1 et puis l'après-midi une pour les élèves du CE2 au CM2. Et donc là, en fait, les projections, elles sont suivies d'un certain nombre d'ateliers. Donc de trois ateliers où les élèves en fait vont voilà faire deux ateliers à la suite des projections qui auront des formes différentes, à la fois une visite d'exposition qui est présente sur le site du campus, mais aussi un atelier plus autour de ce qu'ils ont vu, un quiz un peu qui puisse leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert, et puis une activité plus créative. Qui leur permettra aussi de restituer ce qu'ils ont appris, retenu. Donc voilà, oui, l'idée, c'est effectivement de creuser. Et puis après, bien sûr, on veille aussi à donner aux équipes pédagogiques, en fait, des fiches pédagogiques qui leur permettent aussi de poursuivre si les enseignants et enseignantes ont envie de le faire.
En soirée, La Terre éphémère de Georges Ovachvili, donc qui sera présent aussi à l'issue de cette projection, qui aura lieu donc au Luxe à Valence à 20h. Et puis nous abordons le gros du sujet, hein, c'est le week-end où seront concentrés la plupart des films, avec le vendredi 21, donc toute la journée au campus de Heure, toujours. Entre 10h et 13h30, il y aura un programme pour les séances scolaires. Et à 16h, il y aura l'inauguration du festival, avec aussi une projection après la crue de Claire Sarrazin. Alors, sera suivi ensuite aussi une table ronde à 17h30. Donc, ces crues et inondations sont au cœur de l'actualité. Ça, c'est le sujet de cette table ronde. Ça se révèle aussi dans les propositions cinématographiques.
Oui, alors, c'est un peu... Voilà, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'au printemps, quand on a commencé à regarder des films pour préparer la sixième édition... On regardait des films et puis par ailleurs il se passait plein d'événements assez forts autour de nous sur des crues, des inondations, notamment en Isère, en Espagne, dans le Nord, etc. Et puis ces phénomènes qui ont vraiment fait partie de notre actualité sur la dernière année ont fait écho en fait à des films qu'on voyait. Et c'est de façon assez naturelle en fait que la thématique s'est proposée à nous. Et donc effectivement, c'est la raison aussi pour laquelle on a choisi cette thématique, c'est parce que en fait ces crues et ces inondations sont omniprésentes dans le cinéma. Et donc là, on a fait une sélection de films. On aurait pu en choisir encore une dizaine, voilà, parce que en fait c'est très présent, ça occupe les esprits, que ce soit pour des documentaires ou de la fiction. Et le film que vous avez mentionné, Après la crue, c'est un documentaire qui a été tourné en fait après les crues dramatiques des Pyrénées centrales, donc en 2013, et qui permet en fait de questionner la façon dont les territoires et les habitants et habitantes se relèvent de ces crues. Et donc effectivement, c'est un sujet qui est assez bien traité dans le cinéma. Et donc, voilà, d'où cette programmation. Ouais.
Alors, tous ces films proposés sont issus de documentaristes, ou alors il y a aussi des fictions qui sont mêlées pour ces projections?
Oui, alors c'est vraiment varié. En fait, le festival Les Yeux dans l'eau, c'est vraiment un festival de cinéma, mais pas que de documentaire, pas que de fiction. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de faire résonner la façon dont des documentaristes traitent d'une thématique, donc là, en l'occurrence, cette année, les inondations et les crues, avec d'autres formes de cinéma. Et donc, dans la fiction, on observe qu'en fait, il y a beaucoup de... Beaucoup de films qui peuvent aussi mettre à l'honneur cette question des crues et des inondations de façon très variée. Notamment le film que vous avez mentionné, La Terre éphémère de Georges Ovachvili, c'est sur des crues naturelles du fleuve qui, pendant une période, en fait, laissent des terres éphémères et puis après, elles disparaissent avec les crues, la crue de ce fleuve. Et donc, en fait, voilà, c'est des façons variées de... l'idée, en fait, de cette programmation, c'était de montrer vraiment les différentes facettes des crues et des inondations, avec des traitements très, très variés, avec des tons aussi plus ou moins dramatiques, puisque aussi parfois, comme j'ai pu le dire en introduction, on se rend compte aussi que les crues peuvent, aussi dramatiques qu'elles sont, peuvent aussi être à l'origine de mouvements aussi de solidarité, de mobilisation, etc. Et donc c'est aussi ça qu'on a voulu montrer avec cette sélection.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Cette notion-là de film, comme vous disiez, la terre éphémère, c'est un cycle naturel qui est perçu dans ce film. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt des bouleversements de ces habitudes. Donc il y a aussi cette interrogation sur les conditions climatiques. C'est aussi le sujet de certains films.
Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que avec cette édition, l'objectif aussi, c'est vraiment de pouvoir permettre aux spectateurs et spectatrices de questionner à la fois les raisons pour lesquelles on se trouve confronté à ce type de débordement, de bouleversement, mais aussi de pouvoir questionner et discuter de la façon dont on se prépare à faire face parfois à ces inondations. Et c'est pour ça que, par exemple, la table ronde du vendredi 21 mars, elle aura vraiment pour objectif aussi de voir comment, sur nos territoires, on peut se préparer, qu'est-ce qui est déjà fait, comment ça se passe, en fait, le quotidien de techniciens et de techniciennes, dont l'objectif, dont le métier, en fait, dont la mission est de préserver les populations des crues et des inondations. Et comme vous l'évoquiez, en fait, au-delà de la crue, les inondations, au-delà de créer des dégâts immédiats, matériels, ils créent aussi des chocs, des traumatismes sur le long terme. Et donc, voilà, certains des films aussi parlent de ça. Et puis aussi, on a aussi une fiction qui se passe dans un espèce de bayou en Louisiane post-apocalyptique. C'est aussi de pouvoir montrer aux spectateurs et spectatrices l'imaginaire qui découle de tout cela, en fait, et quelles histoires, quels récits émanent, en fait, de cette question des crues et des inondations.
Il y a aussi le samedi 22 mars. Rendez-vous aux réserves naturelles des Ramières, ce sera à 10h. Il y aura donc des balades dessinées animées par Margot Jeuny. Ensuite, une balade à deux voix en compagnie de Philippe Lioré et la réserve naturelle des Ramières, toujours, du Val de Drôme, et Julien Nivou du SMRD. Et puis, il y a ensuite à 10h au campus de Heure un film Sénégal, un delta pour la vie, de David Gersan et Christine Oberdorf. Ça, c'est un documentaire. Il y en aura d'autres aussi, toujours dans cette journée à 14h, avec les séances sport aventure. Pagayer, c'est la vie. Donc là, ça sera peut-être aussi divers documentaires sur les activités sportives liées à l'eau. Et puis, il y aura campus, toujours, une séance pour les petits yeux. Ça, c'est à partir de 4 ans, donc toujours des courts-métrages autour de l'eau proposés à partir de 16h30. Donc, c'est pour tout le monde, hein, pour tous les publics.
Oui.
Pour ça, vous avez tout un dispositif pour le mieux accueillir.
Oui, alors, effectivement, je le disais en introduction, en fait, le festival, il s'adresse vraiment à tout le monde, pas uniquement aux personnes qui seraient passionnées de cinéma ou passionnées de la rivière ou passionnées des questions environnementales. En fait, on a vraiment pour vocation de rassembler des gens qui sont différents, mais qui peuvent ressentir des émotions similaires ou différentes d'ailleurs, mais à la vue d'un film. Et donc, c'est pour ça, voilà, on a beaucoup parlé de ce fil conducteur des crues et des inondations, mais par ailleurs, en fait, on a vraiment pour envie et vocation de proposer des choses qui puissent plaire autant à des jeunes qui ont envie d'aventure avec une séance sur des jeunes femmes qui ont accès au kayak au Népal ou au Pérou, des amis qui partent à l'aventure d'une rivière, à savoir le Gil dans le Kéra. C'est vraiment en fait donner accès au public à des films variés qui nous font mieux connaître les rivières, mais qui nous font surtout ressentir des émotions de joie, d'émerveillement, d'envie aussi, puisque c'est aussi ça qu'on souhaite, c'est donner envie aux personnes qui viennent au festival d'aller jeter un œil aux rivières qui les entourent.
En soirée, toujours 22 mars, il y aura donc au campus de Heure des soirées dédiées aux courts-métrages, principalement avec deux séries, une à 19h30 et l'autre à 22h, chacune avec à peu près 5-6 films en présentation. Comment vous les programmez ?
Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on avait très envie de faire une soirée court-métrage, puisque c'est un format qu'on n'a pas forcément beaucoup valorisé les dernières éditions. Et en tout cas, l'idée, c'était vraiment de faire une soirée qui célèbre aussi le court-métrage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, c'est la fête du court-métrage en ce moment, ou en tout cas la semaine prochaine. Et donc après, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on en a vu beaucoup, beaucoup, eh bien, on sélectionne, on identifie ce qui irait bien sur une ou deux séances. Et donc là, effectivement, il y avait la volonté de faire des séances qui soient assez similaires en temps pour donner envie. Alors voilà, les personnes qui ont envie de voir qu'une séance, c'est possible. Les personnes peuvent aussi voir les deux séances. En tout cas, il y avait l'idée que ça soit très complémentaire, les deux. Et donc après, on essaye des mélanges et voir ce qui fonctionne bien, ce qui se fait écho, ce qui peut fonctionner ensemble. Et donc après, c'est vraiment très subjectif. Hein. C'est une proposition qui nous semble bien, mais qui serait peut-être différente pour d'autres personnes.
D'ailleurs, il y aura Une histoire d'eau de François Truffaut et Jean-Luc Godard. C'est un film que je ne connaissais pas.
Oui, c'est un petit court-métrage de 12 ou 13 minutes, très étonnant en fait. Qui nous donne à voir en fait l'aventure d'une jeune étudiante parisienne qui est confrontée aux inondations et qui ne peut pas aller à l'université, donc elle rencontre un beau parleur. Et donc ouais, c'est un film vraiment surprenant, très nouvelle vague, et qui avait déjà été diffusé, si je me souviens bien, dans une édition précédente, et qui nous semblait intéressant de revaloriser à nouveau, puisque ça reste un film de deux maîtres du cinéma, donc c'était l'occasion.
Ce film date de 1958. Est-ce que dans cette recherche, cette quête de films, vous avez pu découvrir des films anciens qui ont trait à ce phénomène d'inondation ?
Alors on a eu à voir en fait des films plus anciens, notamment aussi des films en fait qui montrait des extraits de films beaucoup plus anciens. C'est pas forcément ceux qu'on a sélectionnés à la fin pour des raisons variées, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça reste une thématique qui est présente dans le cinéma depuis longtemps, puisque les inondations et les crues sont là depuis toujours, et donc elles sont documentées grâce au cinéma depuis son invention, je pense.
Dans tes productions proposées, est-ce qu'il y en a qui sont de l'ordre du reportage, de l'investigation ?
Alors, on n'a pas là de films qui sont vraiment de l'investigation. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le film Après la crue, là, qui sera proposé lors de la table ronde du vendredi, en fait, ça suit le travail de deux chercheurs qui sont allés en fait interviewer des personnes à des périodes différentes en fait, post-catastrophe, et puis une année plus tard, deux années plus tard, etc. Et donc qui permettent, enfin ces deux chercheurs en fait ont vraiment collecté la parole des gens qui avaient vécu cette crue. Et après, pour répondre totalement à la question, l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer des formes très très variées et donc comme je le disais avec des imaginaires qui peuvent être aussi très très variés, très voilà, par exemple Les Bêtes du Sud Sauvage qui sera diffusé le dimanche 23, c'est un film complètement fantastique mais qui nous parle quand même de ces crues, de ces phénomènes, etc., assez assez violent et à la façon dont une petite fille peut vivre dans ce monde en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est, comme je le disais, on n'est pas que sur du documentaire, donc on va pas aller que sur du reportage, de l'investigation. On est vraiment sur la rencontre de différents imaginaires qui se retrouvent et qui dialoguent en fait.
Voilà. Donc ce dimanche 23, ça commencera toujours au campus de Heure à 10h avec deux séances de projection, le Vuelta a Riano et un bonheur hydroélectrique. Et ça sera suivi ensuite d'un projet photographique, Le Lac, donc une présentation de cette exposition avec une lecture d'Antoine Picard, qui est le photographe.
Oui, c'est ça, oui. Et oui, et puis là, en fait, nos thématiques, quand ça déborde, elle fait forcément mention, enfin, elle fait forcément référence, pardon, aux crues et aux inondations, qui sont en général assez imprévisibles, ou en tout cas, voilà, qui sont des phénomènes très violents, etc. Mais on voulait aussi s'interroger à la façon, façon dont les hommes aussi choisissent parfois de faire déborder, de faire déborder l'eau. Et donc, cette séance et l'exposition d'Antoine fait vraiment en fait le focus sur les constructions de barrages, sur la façon, pareil, dont des territoires, dont des hommes et des femmes vivent le choix de faire immerger des terres entières et comment on le vit. Et donc, voilà, ce temps du dimanche matin fait un focus là-dessus.
L'après-midi à 14h, toujours au campus, Partager la rivière, une difficile équation. Vous illustrez cela avec Ici rugissaient les lions de Laurine Estrade et Jean-Baptiste Bonnet, donc un film de 2022, 66 minutes, un documentaire donc qui met en évidence certaines absurdités peut-être.
Oui, alors en fait, ce temps-là du dimanche, en fait, il a vraiment pour vocation de répondre aussi à la mission qu'on s'est donnée, à savoir de, comme je le disais tout à l'heure, de créer des espaces de dialogue autour de la rivière. Et donc, en fait, ce film, c'est un excellent support pour parler de la façon dont on partage la rivière en fonction des différents usages, que ce soit l'usage des loisirs, l'usage la captation d'eau potable, le tourisme, des questions assez variées. Et donc, en fait, c'est un film qui ne se passe pas du tout sur notre territoire, mais qui nous permettra pour autant de re-questionner la façon dont cette rivière, en fait, peut être partagée et quels sont les enjeux qui sont liés à un partage équitable, en fait, de ces rivières. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie après ce film qui est vraiment qui dépeint vraiment les conflits qui peuvent exister autour d'une rivière. On a eu envie aussi d'avoir un temps d'échange avec différents acteurs locaux qui peuvent aussi apporter un regard sur cette question, à savoir Frédéric Tron de la Commission locale de l'eau. Quelqu'un du SMRD, Cédric Proust, qui anime en fait la commission locale de l'eau. Et puis on aura aussi la présence de Jean-Baptiste Narcy, qui est quelqu'un d'un bureau d'études de Paris, mais qui pourra apporter aussi un regard plus large en fait sur ces questions du partage de la ressource.
Ça sera animé par Aurélien Rateau, donc avec aussi un échange avec le public.
Complètement.
Et à la suite, donc, le film dont vous parliez tout à l'heure, Les Bêtes du Sud Sauvage, ça sera pour une séance en famille à 17h. À 19h30, soirée conviviale, quiz cinéma et rivière. Alors ça, c'est plus une soirée ludique avec le public pour prétendre quoi d'ailleurs ? Est-ce qu'il y aura quelque chose à gagner ?
Oui, alors on aura un petit lot pour les gagnants, pour l'équipe gagnante. Alors sans vouloir... comment dire, gâcher la surprise. Ça reste des lots très, comment dire, modestes. Mais bon, l'intention est avant tout de passer un bon moment, puisque bon, ça reste, les yeux dans l'eau, ça reste un festival, donc festif et convivial. C'est vraiment une dimension sur laquelle on insiste. On a vraiment envie que les gens passent un bon moment pendant la durée du festival, qu'ils puissent avoir le temps d'échanger, de rigoler, de boire un coup avec leurs amis ou avec des inconnus et discuter des films qu'ils ont vus. Et donc là, c'est un peu, voilà, c'est aussi une nouveauté de cette édition, proposer en fait un temps très ludique, sympa, rigolo, où en fait ensemble on peut se tester sur nos connaissances autour des rivières et des films. Et donc, voilà, on concocte des questions pour ce temps-là.
Ce festival Les Yeux dans l'eau émane de l'association Drôme Environnement Territoire Culture. Ça s'est créé en 2018. Qu'en est-il de cette structure? Est-ce qu'elle se tend à se développer et peut-être d'amplifier un peu ses répercussions, son rayonnement également?
Oui, bah complètement. En fait, l'action phare de l'association, ça reste le festival, qui est vraiment quelque chose qui nous occupe beaucoup tout au long de l'année. En revanche, on a vraiment un projet de développement de l'association qui se traduit par l'organisation avec des partenaires du territoire, de projections en milieu plus rural et en milieu scolaire. Et donc, on est en permanence en recherche de personnes qui auraient envie de travailler avec nous pour travailler autour du cinéma et des rivières. Et donc là, la dernière fois qu'on avait eu l'occasion d'échanger, c'était pour une projection sur un temps familial à Recoupe-Beaugensac, à la Maison Oiseau, qui s'était très bien passé. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a envie de développer. Et donc, on est bien sûr à l'écoute de toutes les personnes et structures qui auraient envie de travailler avec nous.
Autour de cela, il y a les partenaires de toutes sortes, institutionnels, financiers. Il y a aussi les partenaires médias que j'ai cités précédemment, avec Radio Saint-Fée, Micheline, Radio Micheline et ici. Et puis d'autres qui sont plutôt opérationnels, qui sont des acteurs aussi, en quelque sorte, du territoire. Alors, comment se déroule ce partenariat? Est-ce qu'il permet de bien baser, statuer sur cette organisation?
Les partenariats dans un festival, ils sont essentiels, que ce soit pour accueillir des projections, mais aussi imaginer des façons de faire qui puissent être collectives. Et donc, comme je mentionnais, par exemple, l'atelier Carcavel, l'atelier 8, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir multiplier, diversifier nos partenaires pour pouvoir proposer au public des actions encore plus variées, encore plus nombreuses aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a la chance là d'avoir une belle quantité de personnes qui ont bien voulu s'associer à nous pour organiser le festival. Et on a vraiment envie de les développer encore plus, comme je le disais, pour rendre plus accessible le festival à un plus grand nombre de personnes.
Vous parliez pendant l'émission de cette organisation, donc de Les Yeux dans l'eau. C'est une organisation plutôt féminine?
Oui, alors c'est vrai que je dis beaucoup, qu'on est contente et qu'on est très heureuse parce qu'effectivement, on est quasiment essentiellement des femmes. Par facilité, je féminise les adjectifs. Mais c'est un hasard en fait. Hein. C'est vrai que il y a quelques hommes dans notre organisation, mais c'est quand même une équipe très féminine de bénévoles et une salariée, à savoir moi.
Voilà un programme très complet. On n'a pas abordé en profondeur les présentations de chaque film, mais ils sont présentés sur ce catalogue qui est accessible sur le site des Yeux dans l'eau.
Oui, complètement. Donc notre site, c'est www.festival-du-milieu-les-yeux-dans-l'eau.fr. Et donc, il y a le programme, bien sûr, la bande-annonce aussi du festival dont on est ravis et qui donne une belle image de la programmation. Et puis, ne pas hésiter aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On diffuse très régulièrement des infos sur ce qui va se passer tout au long du festival.
L'affiche, très simple, et de qui?
Alex B, On était très heureuse de qu'il accepte aussi de faire l'affiche de cette édition. Et il a bien su capter en fait la thématique du débordement, en montrant aussi un côté un petit peu ironique en fait à la thématique, le désespoir qui peut surgir en fait de cette affiche.
Une affiche sobre et signifiante. Hein. Jeanne Favra, vous-même, dès le départ, vous êtes partie de cette aventure.
Non, alors moi je fais pas partie de l'aventure depuis le début. Moi j'ai été recrutée en tant que salariée en octobre 2023. Jusqu'alors l'association elle avait pas de salariés, c'était un festival exclusivement bénévole, géré par l'équipe. Et puis avec le projet de développement que j'ai mentionné tout à l'heure, il a été question aussi de renforcer l'équipe, puisque les bénévoles, elles peuvent faire beaucoup, mais pas non plus tout. Enfin, voilà, ça développer aussi le projet, le festival, ça prend beaucoup de temps. Et grâce au financement de certains partenaires, ça a rendu les choses possibles de pouvoir avoir une salariée quasiment à temps plein qui puisse travailler là-dessus.
Vous êtes en recherche de bénévoles là, pour cette organisation encore ?
Alors, sur cette édition, on est à peu près au complet. Après, si des personnes se disent que ça peut être intéressant de venir donner un coup de main, je pense qu'on aura toujours, toujours des choses à proposer. Mais par contre, c'est vrai qu'on cherche des bénévoles dès maintenant pour s'investir à nos côtés sur l'association, sur le développement du festival. L'association, c'est le travail bénévole dans cette association, c'est aussi regarder des films, participer à la commission de programmation, donner son avis, etc. En fait, on a vraiment besoin d'avoir un maximum de regards sur des films pour aussi faire une programmation qui soit la plus pertinente possible. Donc voilà, s'il y a des cinéphiles parmi les gens qui nous écoutent, qui n'hésite pas à nous contacter. On a l'adresse qui est sur le site internet, qui est organisation@festival-du-milieu-les-yeux-dans-l'eau.fr ou via les réseaux sociaux, etc. Il ne faut pas hésiter. Et donc, les temps de visionnage collectif recommenceront au printemps après le festival. Et donc, on serait très, très heureuse d'accueillir de nouvelles personnes.
Il y aura une petite restauration sur place ?
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais bien sûr, donc, c'est vrai que l'essentiel du festival se passe à Heure, sur le campus de Heure. Et donc, parce que ce n'est pas à proximité de cafés, restaurants, etc., on proposera bien sûr, il y aura une buvette, il y aura de la restauration. Simple, mais bonne. Et les gens pourront tranquillement se sustenter entre les séances, boire un café, boire un thé, manger un petit morceau, entre les films.
Jeanne Favra, merci beaucoup d'être venue sur Air du Bois pour nous parler donc de cette 6e édition des Yeux dans l'eau, intitulée « Quand ça déborde ». Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bientôt.